Que le nom du Seigneur soit béni. Je vous invite à ouvrir votre Bible et à lire avec moi trois lectures, s'il vous plaît. Trois lectures. La première dans le psaume 14, verset 1er. J'ai pensé à ce texte l'autre jour en regardant les informations. Ils interviewaient. C'était Monsieur Pivot qui interviewait un grand scénariste qui est mort cette semaine. Je ne sais pas si vous avez appris, il y a un metteur en scène qui est mort. Et on lui posait la question, mais si vous croyez que Dieu existe, qu'est-ce que vous aimeriez entendre lorsque vous mourrez? Et le gars, il a dit, mais moi, je ne crois pas que Dieu existe. Après tout, il n'y a rien. Et j'ai pensé à ce verset, on peut le lire ensemble. Le psaume 14. Psaume 14. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Voilà le verset auquel j'ai pensé. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Le deuxième texte est dans Ésaïe au chapitre 55. Il y a une exhortation que nous devons prendre au sérieux parce que nous sommes conscients qu'il y a une bénédiction derrière. Ésaïe 55, verset 6. Ésaïe chapitre 55, verset 6. C'est un commandement. Vous aimez les commandements? Bon, les commandements du Seigneur, ils sont tous bons. Ils sont tous bons. Le commandement des hommes, pas toujours, mais ceux de Dieu, ils sont bons. Ésaïe 55, verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voies ne sont pas mes voies, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voies sont élevées au-dessus de vos voies et mes pensées au-dessus de vos pensées. Et la troisième lecture, c'est dans l'Épître aux Hébreux, que nous allons le lire. Elle est un peu plus longue, mais je pense qu'elle est nécessaire par rapport au sujet que nous allons aborder ce soir. Hébreux, chapitre 9, nous allons lire à partir du verset 11. Jusqu'au verset, il faudrait lire jusqu'à la fin, en vérité. Hébreux, chapitre 9, verset 11. Hébreux 9, verset 11e. « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant ? Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Voilà pourquoi c'est avec du sang que la même première alliance fut inaugurée. Moïse, après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope. Et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a ordonné pour vous ». Il fit pareillement l'aspersion avec le sang sur le tabernacle et sur tous les ustensiles du culte. Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang. Et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Vous lirez chez vous la suite jusqu'à la fin du chapitre. Mais c'est cette partie du verset qui nous intéresse ce soir. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous avons lu dans le psaume 14 que l'homme qui ne cherche pas Dieu est un insensé. Ce soir, si nous sommes là, c'est bien parce que justement, nous avons à cœur de chercher Dieu. Et c'est une grande bénédiction, on l'a lu dans Ésaïe, chercher l'Éternel. Il y a des gens qui ne cherchent pas Dieu. Ça ne les intéresse pas, ce scénariste qui était connu et reconnu, j'ai oublié son nom, mais je pense qu'il a dû changer d'avis quelques secondes après sa mort, d'avoir dit des choses pareilles. Et le résultat, ça vient de l'incrédulité. Ce soir, nous devons comprendre une chose, c'est que la bénédiction, elle est liée à cette foi, à cette véritable, cette approche de Dieu. Vous avez lu avec moi qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui. Même si quelqu'un était dans ce mauvais cas de figure, quelqu'un qui se moque de Dieu, qui rejette Dieu, qui est insensé, vous avez lu quelle est belle cette parole, qu'il retourne à Dieu qui aura pitié de lui. Car si vous lisez toute la parole de Dieu, vous pouvez en conclure une chose certaine, c'est que Dieu veut nous attirer toujours plus près de lui. Même si on ne va pas bien. Est-ce que ça peut arriver qu'on n'aille pas bien? Ça peut arriver? Oui, ça peut arriver. Eh bien, quand vous lisez tous ces textes, même si Dieu est obligé de dire des choses sévères, vous voyez qu'il veut nous arrêter, nous attirer et nous enlever de ce chemin de perdition qui nous fait tant de mal. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas reçu le pardon. Moi, je suis persuadé. On m'a souvent posé la question, qu'est-ce que c'est, Monsieur Go, qui est le plus important sur la terre? Je crois franchement que c'est d'avoir la paix et le pardon des péchés. Je ne vois pas qu'est-ce que c'est qui peut être plus important. Alors, mais pour cela, il faut le réaliser. Il faut réaliser qu'on est perdu. C'est peut-être pas grave qu'un insensé dise il n'y a point de Dieu. C'est pas grave s'il change d'avis. Si voilà, j'ai pensé jusqu'à présent que Dieu n'existait pas parce que je regardais assis, parce que s'il y avait un Dieu, ceci, cela. Mais quand vous écoutez la parole de Dieu, vous vous rendez compte que Dieu veut vous attirer à lui. Peut-être que vous ne réalisez pas certaines choses. Est-ce qu'on réalise tout ce qui se passe sur la terre? Vous regardez les informations? Est-ce que vous les regardez? Bon, c'est certainement, on ne voit que le haut de l'iceberg, on voit que c'est des choses graves. En fait, je veux dire, on ne voit quand même que le haut de l'iceberg, mais peut-être même pas. Mais ce que nous voyons doit nous permettre de réfléchir. Est-ce que ce que vous voyez vous laisse percevoir que le péché existe? Est-ce que ce que vous voyez aux infos vous laisse croire que le péché existe? Que le péché existe vraiment? Alors peut-être que vous êtes là, vous observez et que vous ne faites rien. Mais moi je suis sûr qu'on doit se poser des questions. Et cet après-midi je me dis, tiens, si on avait vécu du temps de Sodome, quand le feu est descendu sur la ville de Sodome. Vous connaissez cette histoire, on ne va pas y revenir, mais comment l'aurez-vous interprété, vous, cette affaire? Qu'est-ce que vous auriez dit? Tiens, du feu du ciel est tombé, qu'est-ce que les journaux, qu'est-ce que les journalistes auraient pu dire de cette affaire? Tiens, qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est Dieu? Pourquoi le mal existe? Est-ce que c'est le péché qui est puni? Qu'est-ce que vous auriez pensé? Si vous aviez vu les infos il y a quelques milliers d'années. Hein. Moi, je pense qu'on se pose tous des questions. On pose des questions, mais une chose est certaine, c'est qu'il faut comprendre l'origine du mal. Alors, ce n'est pas ce soir que je vais vraiment l'expliquer, mais le mal existe vraiment. Et quand vous regardez, vous voyez, donc ça commence avec des propos qui paraissent peut-être simples, Dieu n'existe pas, que le méchant retourne à Dieu, que l'homme d'iniquité. On voit que le mal existe et on pourrait prendre plein de cas et voir vraiment combien l'homme peut s'interroger sur l'origine du mal. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de gens ne veulent pas croire en Dieu, parce qu'ils disent oui, si Dieu existait, il ne se passerait pas ceci, il ne se passerait pas cela. Mais moi, quand je vois par exemple qu'on confie des bateaux remplis de milliers, de dizaines de milliers de litres ou de tonnes de pétrole, qu'on confie ça à des gars qui n'ont même pas les diplômes pour traverser les océans, et on s'étonne qu'ils aient fait exploser les navires, voyez combien l'homme est de moins en moins responsable. Je prends cet exemple pour ne citer qu'un, mais vous savez que c'est vrai. Donc, ce soir, moi, je voudrais vous parler de ce verset. Parce que le mal existe, mais qu'est-ce que vous faites de la parole de Dieu? Qu'est-ce que vous faites de ce verset? Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce sont des versets qui sont importants, qui doivent nous arrêter. Et la parole de Dieu doit nous arrêter. Vous rappelez cet homme de Dieu qui a été arrêté par un âne. Vous rappelez que l'âne l'a coincé et que Dieu voulait l'arrêter pour lui parler. Et lui, il n'a même pas fait attention. Et je vous pose la question, combien de fois le Seigneur s'est mis en travers de notre vie sans qu'on s'en rende compte pour nous arrêter? Est-ce que vous pensez que Dieu a pu se mettre plusieurs fois sur votre chemin dans des situations? C'est une question, vous voyez, pour nous arrêter, pour nous amener à réfléchir. On ne l'a peut-être pas vu, comme Balaam qui n'a pas vu que Dieu voulait l'arrêter vraiment dans sa folie. Voilà. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. C'est une parole qui doit nous arrêter. C'est une parole, à nous les chrétiens, qui doit nous faire réfléchir, qui doit peut-être même nous réveiller. Tout le monde sait. Alors j'ai parlé du péché, j'ai juste bricolé avec le péché, mais Tout le monde sait que le péché, il doit être ou puni ou pardonné. Vous avez vu à la télévision, quand on entend quelque chose, les familles, il faut qu'ils soient punis. Vous avez vu cette... Voilà, il faut qu'ils payent. Ça tient debout. Ça tient debout. Mais heureusement que le Seigneur ne fait pas pareil avec nous. Parce que, de toute façon, le péché, ou il sera puni, ou il sera pardonné. Qu'est-ce que vous préférez ? Hein ? Mais c'est ça la vérité. C'est pour ça qu'une parole doit absolument nous arrêter. Comment obtenir le pardon des péchés ? Puisque la Bible dit que sans effusion de sang, il y a le pardon, il n'y a pas de pardon des péchés. Et on a parlé d'une conscience. Notre conscience, elle nous interpelle. Il y a des gens qui ont perdu la conscience. Là, c'est grave. Mais vous devez certainement de temps en temps discuter avec des gens qui ont perdu la conscience. Ça fait pitié, vraiment. Moi, ça m'est difficile de discuter avec des gens qui ont perdu la conscience. Parce qu'ils ne veulent plus se remettre en question. C'est tout le temps les autres qui ont tort, etc. Bon. Mais c'est une vérité pour tous les hommes. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que vous êtes heureux de savoir que le pardon existe ? Est-ce que vous réalisez la bénédiction que cela représente, que ce texte... Vous voyez, ce texte, c'est un peu compliqué. Mais si vous prenez ce verset et que vous partez sur tout le texte, vous dites, mais il y a un pardon. Il y a un pardon qui existe vraiment. Mais comment s'obtient ce pardon ? Parce que c'est une vérité pour tous les hommes, pour les Juifs, pour les Grecs, pour les Toulousains. C'est une vérité pour tout le monde que le pardon des péchés peut être obtenu par le sang. Mais qu'est-ce que c'est ce sang, hein ? Dans la loi de Moïse, vous avez vu, il fallait faire des sacrifices sanglants, il fallait tuer des animaux, des boucs, des moutons, etc. Il fallait qu'il y ait des effusions de sang. Je ne sais pas si tous les gens comprenaient, mais Dieu était en train d'enseigner et de préparer l'humanité à comprendre qu'un jour, il y aurait une effusion qui pardonnerait de manière définitive. Mais même les païens, je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages à la télé, mais même des païens, des tribus éloignées qui ne connaissent rien, ils ont souvent, il faut qu'ils égorgent des poulets, il faut qu'ils courent avec du sang pour que ils soient pardonnés, etc. Vous voyez comme quoi ça s'est répandu partout. C'est une vérité. Mais est-ce que nous, on est là, ces sacrifices païens, qu'est-ce que ça veut dire, des sacrifices d'animaux, mais même parfois des sacrifices sanglants. Moi, j'ai lu l'histoire de la Polynésie, puisque j'y ai vécu, et je vous assure qu'à une époque, ils sacrifiaient des gens, des êtres humains, pour que les familles soient protégées. Vous voyez tout ce qu'on a pu dire au travers du sang. Mais là, de quoi la Bible nous parle ? De quelle effusion de sang l'apôtre qu'il parle ? Il parle d'un sang infini qui a été versé. La Bible dit parle du sang précieux de Jésus. Pourquoi il est précieux ? Ben parce qu'il a du prix. Est-ce que votre sang a du prix ? Est-ce que notre sang a du prix à nous ? Non, parce qu'il est imprégné de péché, parce que notre sang il est corrompu. Mais le sang de Jésus, il est précieux. Alors c'est vrai que c'est de la folie. La Bible dit que c'est de la folie pour les gens de croire que la prédication de la croix peut sauver les gens. Il y a des gens, dès que vous leur parlez que le sang de Jésus peut nous purifier de tous les péchés, ça les fait rire. Moi, ça ne me fait pas rire. Moi, ça me fait réfléchir. Si ça vous fait rire, c'est votre affaire. J'espère que ce verset vous fait réfléchir. Le sang du Seigneur Jésus-Christ. Là, il n'est plus question d'animaux sacrifiés. Il est question du Seigneur Jésus. Est-ce que nous nous rendons compte que le Seigneur Jésus, c'est Dieu lui-même qui est venu sur la terre pour donner sa vie ? Et il y a quelqu'un, un jour, je vais prendre un verset parce que j'avais entendu dans Actes 20, 28, regardez ce verset avec moi, ça m'avait fait peine. J'avais vu quelqu'un qui avait dit, Paul était fatigué le jour où il a parlé, parce qu'il s'éteint à la nuit. Non mais pour vous dire, Actes 20, 28, lisez avec moi. C'est un verset qui nous parle du sang de Dieu. C'est le seul texte dans la Bible, je crois, si je me trompe. Actes 20, 28, alors Pierre... C'est vrai qu'il a prêché toute la nuit, Paul, il était peut-être fatigué, mais regardez ce qu'il dit. Actes 20, 28. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Ce n'est pas l'Église de Jésus-Christ, c'est l'Église de Dieu. Et j'ai lu, moi, ce commentaire que cet homme, ce théologien, qui disait, oui, Dieu n'a pas de sang... Dieu est esprit, donc Paul devait être fatigué quand il a dit ça. Mais je ne pense pas qu'il était fatigué, je pense que toute la Bible est inspirée, et que le sang de Dieu nous parle bien sûr du sang de Jésus-Christ, mais qui nous prouve que Jésus-Christ est Dieu, qu'il s'est dépouillé de la gloire et qu'il est venu sur la terre pour porter notre péché, parce qu'il n'y avait que lui qui pouvait nous sauver. Des fois, les gens disent, mais c'est vrai l'histoire de l'incarnation, que la Vierge Marie, enfantée par le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus, les gens, même des gens qui sont dans cette doctrine-là, n'y croient pas. Mais bien sûr que c'est vrai, parce qu'il fallait le sang précieux pour que nous puissions, vous et moi, être pardonnés. Alors, c'est vrai que franchement, il n'y a rien de plus merveilleux que de refaire l'historique de la mort de Jésus-Christ, ce qu'il a payé, comment il a accepté de mourir sur le bois de la croix, qu'est-ce qu'il a vécu à Gethsémané. Tout ça, c'est pour vous et moi, pour que vous puissiez, nous puissions être pardonnés et vivre continuellement dans le pardon. Je ne sais pas, vous aimez lire les évangiles? Quelqu'un me dit dernièrement, oh moi l'évangile, je les connais par cœur. Déjà, j'en doute. Mais moi, je n'ai pas besoin de les lire. Je les ai déjà lus il y a des années. Je les ai lus plusieurs fois. Je les connais par cœur. Moi, je crois qu'il n'y a rien de plus beau que de lire et de relire et de re-relire les évangiles et de voir ce que Jésus a fait sur le bois de la croix. Pourquoi? Eh bien, pour vous bénir. Qui a besoin de bénédiction? Moi, je trouve que j'en ai besoin. Qui n'en a pas besoin? Celui qui dit qu'il n'a pas besoin de bénédiction, je pense qu'il est vraiment aveuglé. Et c'est important. Si c'est écrit, c'est important. Oh, le sang de Jésus. Parce que si ce n'est pas le sang de Jésus, on va essayer de plaire à Dieu par ses propres forces. On va essayer de plaire à Dieu par ses œuvres. Et chaque fois qu'on honore la crucifixion, Dieu bénit. Parce qu'il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication de la croix. Et quand on parle des souffrances de Jésus, c'est un message que Dieu bénit. Quand on parle de la façon dont il a transpiré dans le jardin de Gethsémané, où il nous est dit que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang. Il faut que vraiment le corps soit vraiment, le cœur soit vraiment dilaté. Je ne sais pas comment ça doit se passer, il faut voir des docteurs pour ça. Mais c'est vrai, il a failli mourir dans le jardin de Gethsémané. Pourquoi? Eh bien pour vous, parce qu'il vous aimait, parce que de là ce que notre sueur se transforme en grumeaux de sang, c'est que vraiment, il doit y avoir énormément de souffrance. Pourquoi essuyer, pourquoi être inspiré? Pour vous sauver. Est-ce que vous réalisez la grâce que vous avez ce soir d'être dans un endroit où Dieu veut vous rappeler que ce qu'il a fait au calvaire, c'est pour vous qu'il l'a fait, pour que vous soyez complètement pardonné. Et si vous lisez toute l'histoire de la crucifixion, du jardin de Gethsémané, comment il a été conduit chez Pilate, comment on l'a malmené, comment on l'a maltraité, vous savez qu'on a fait une couronne d'épines pour se moquer de lui, c'était pour se moquer. Est-ce que vous le feriez, vous, ça, pour vous moquer de quelqu'un dont on a dit qu'il était roi? Est-ce que vous prendriez une couronne d'épines et que vous frapperiez sur sa tête pour lui faire mal? Est-ce que vous le feriez à un animal même? Vous voyez comment le cœur de l'homme, il est méchant. Et tout ça, le Seigneur l'acceptait, les insultes, les crachats. N'oubliez pas qu'il était Dieu. Et que, pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça pour que nous comprenions tous bien que Jésus a beaucoup payé pour qu'on soit vraiment pardonné, mais que l'on soit véritablement pardonné. Vous vous rendez compte? On l'a dépouillé de ses vêtements. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Si on prenait quelqu'un là et qu'on le mettait en sous-vêtement, qu'est-ce que vous diriez? Est-ce que ce n'est pas humiliant? Parce que là, on le lit, tout ça, on ne fait pas attention. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, l'humiliation. Tout ce que Jésus a accepté, on pourrait prendre chaque détail et vous diriez, mais ce n'est pas possible, il a fait ça, pourquoi? Il a fait ça pour qu'on soit pardonné un jour. Ça vaut, vous savez, il a payé vraiment. Nous, on lit ça, on ne fait peut-être pas attention, on est tellement habitué à la nudité. C'est pas vrai? C'est vrai ou c'est pas vrai? Il y a tellement de choses aujourd'hui qui présentent la nudité, mais c'est grave la nudité de la présenter. Aujourd'hui, on est familiarisé, mais je vous assure que c'est beaucoup plus grave que ce qu'on pense, à cause du péché, bien sûr. Mais la prédication de la croix, ça vous amènera à la bénédiction. Parce que je sais que vous en avez besoin, j'en ai besoin, et je sais que Dieu veut vous la donner. Parce que si Dieu a donné son Fils sur la croix, à combien plus forte raison il vous donnera toutes choses avec lui. Et ce soir, vous devez dire, mais c'est vrai. Tu nous rappelles, Seigneur, ton sacrifice au calvaire. Tu nous rappelles en partie ce que tu as souffert à Gethsémané, chez Pilate, chez Caïphe, etc. Chez Hérode, au calvaire en particulier. Pourquoi tu nous rappelles ça? Mais pour nous rappeler que le pardon, il existe vraiment. C'est important le pardon. Que de le réaliser. que le pardon de Dieu, le pardon se trouve auprès de Dieu. Moi, j'aime ce verset qu'on a lu dans Isaïe 55. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Ça vous rassure pas, ça? Je me souviens de ce gars qui venait, c'était un chrétien. Il venait de temps en temps, et un jour, je ne sais pas, on parlait, puis il me dit, vous savez, moi, je suis comme Dieu. Je dis les choses qu'une fois. Et puis j'ai dit, mais heureusement que Dieu ne fait pas pareil que vous. Parce que, mais vous voyez, ce gars, il s'imaginait, vous voyez un petit peu comme il était dans le brouillard. Mais moi, heureusement que Dieu est patient et qu'il rappelle les choses. Et c'est, d'ailleurs, c'est écrit, la patience de Dieu est notre salut. Que son nom soit béni. La crucifixion de Jésus-Christ, ce verset que nous venons de lire, ne peut que nous amener à comprendre la bénédiction du Seigneur. Vous avez vu sur le bois de la croix, une des paroles de Jésus, c'est « mon Dieu ». C'était, je crois, la seule fois, si je me trompe, où Jésus appelle Dieu, Dieu. En principe, comment il l'appelait ? Père. Parce que ça représentait cette communion ininterrompue. Mais là, qu'est-ce qu'il est ? Pourquoi Jésus appelle-t-il le Seigneur Dieu ? Eh bien, parce qu'il n'est plus en communion avec lui. Parce qu'il est en train de prendre votre péché. Et le mien, tous les péchés du monde. Bien sûr que je peux vous parler pendant des heures, je l'ai déjà fait, de la souffrance de Jésus-Christ sur le bois de la croix. Nous, on peut parler d'une manière assez intelligente, intellectuelle, de la souffrance physique. La souffrance physique, c'est assez facile à comprendre. Mais je pense qu'il ne nous est presque pas possible de parler des souffrances intérieures, psychiques, morales, que le Seigneur Jésus a subies sur le bois de la croix. Nous, on voit là son corps ensanglanté, on voit tout ce qu'il a subi, et déjà, ça nous meurtrit, ça nous peine. Mais je suis sûr que les souffrances intérieures sont beaucoup plus graves et sévères que les souffrances extérieures. Parce qu'il s'est chargé de nos iniquités et de toutes nos maladies. C'est pour ça que ce soir, vous pouvez croire dans la délivrance et dans la guérison. Combien c'est important. C'est vrai qu'on peut le présenter d'une manière maladroite. Quelqu'un qui prêche sur le bois de la croix, comme moi ce soir, vous pouvez dire, il s'est dit maladroitement. Mais ce n'est pas grave ça. Ce qui est important, c'est que vous compreniez l'essence même du message où Dieu veut que vous sachiez que sans le sang de Jésus-Christ, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas possible. Cette doctrine, vous savez les doctrines, moi je lis sur la doctrine, je lis beaucoup sur les doctrines, sur les différences de doctrines, etc. La doctrine, cette doctrine, elle est divine. Quand on parle du sang de Jésus-Christ, ce n'est pas la doctrine des assemblées de Dieu, ce n'est pas la doctrine des apostoliques, elle est divine. Ce n'est pas une parole d'homme. Ce que je suis en train de vous dire, ce n'est pas, les assemblées de Dieu qui le disent, c'est toute la parole de Dieu. Si vous rejetez cette parole, est-ce que vous rejetez les assemblées de Dieu ou est-ce que vous rejetez Dieu lui-même? Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que des fois, vous entendez des trucs, bon, mais c'est vraiment propre à une église. Moi, des fois, j'entends de ces trucs dans des églises, je me dis, mais ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Si vous le rejetez, vous rejetez la doctrine de cette dénomination. Mais lorsque vous rejetez la prédication de la croix, lorsque vous rejetez ce verset, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, vous rejetez Dieu lui-même. Et ça, ce n'est pas bon du tout pour que vous obteniez le pardon. Peut-être vous avez des opinions. Est-ce que vous avez des opinions par rapport à un sujet? Moi, des fois, monsieur, moi, j'ai telle idée que l'enfer n'existe pas. Mais il y a des gens, des fois, qui me disent, ils se disent chrétiens, est-ce que l'enfer existe? Ben oui, ça existe. Qui c'est qui en a parlé le plus? Qui a parlé le plus? C'est Jésus. Voilà, vous pouvez prendre les textes. Il est parlé, je crois, 12 fois de la Géhenne. Sur les 12 fois, 11 fois, Jésus en parle. Pour vous donner une idée, on ne va pas entrer dans ce sujet. Mais c'est pour vous dire que ne vous bloquez pas par rapport à une opinion. Votre opinion, ça ne vaut rien devant la parole de Dieu. Je suis désolé de vous blesser peut-être, mais votre opinion, ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est ce qui est écrit. Et Dieu dit qu'il a jugé bon de donner son Fils au calvaire pour que vous puissiez être pardonné. Vous voulez être pardonné? Est-ce que vous voulez être pardonné? Est-ce que vous voulez vous endormir tout à l'heure en disant « je suis pardonné » ? C'est possible d'être vraiment pardonné? Eh bien oui, vous le croyez ça? Vous avez vu l'apôtre Pierre? Comment il avait dit lui, mais oui, mais les autres, ils te renieront. Les autres, mais les autres, c'est clair. Mais moi, je ne te renierai pas. Mais moi, je suis prêt à aller jusqu'à la mort et en prison, jusqu'avec toi. Est-ce qu'il a été pardonné? Qui vous voyez dans la Bible qui s'est approché de Jésus et qui n'a pas été pardonné? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non. Tous ceux qui se sont approchés de Dieu et qui ont dit, pardonne-moi, tous ont été pardonnés. Même le criminel sur le bois de la croix a obtenu le pardon de ses péchés. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et c'est la seule chose qui peut qui peut nous sauver. Cette doctrine, elle est remplie de sévérité, mais elle est remplie d'amour. Quand vous parlez sur la croix, vous voyez la sévérité de Dieu à l'égard du péché, vous voyez l'amour de Dieu à l'égard du pécheur, mais c'est une manifestation d'amour, la prédication de la croix. Alors, ce soir, je voudrais que vous puissiez dire, mais Seigneur, je reçois ton pardon. Je ne sais pas si vous avez, quand vous recevez quelque chose, quand on vous donne quelque chose de palpable, vous êtes content quand on vous le donne, non? Vous êtes content quand on vous donne votre salaire, quand on donne quelque chose? Est-ce que vous êtes content? Oui, vous le prenez. Eh bien, ce soir, c'est la même chose, mais c'est spirituel. Vous devez prendre le pardon par la foi. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce n'est pas la peine de prier, de pleurer. Bon, ça, des fois, ça fait du bien de pleurer. Est-ce que ça vous arrive de pleurer? Est-ce que ça fait du bien de pleurer? Oui, ça fait du bien. Mais ce n'est pas par des larmes qu'on va obtenir le salut, en se faisant pleurer, je ne sais pas, c'est pas par les œuvres. Vous savez, il y a quelqu'un qui me disait, ah mais moi, vous savez, je suis un philanthrope. J'aime tout le monde, voilà. Je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, j'aime tout le monde et j'obtiendrai le salut parce que j'aime tout le monde. Ouais, qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas biblique, ça. Tant mieux d'aimer tout le monde, quoique j'ai quand même de petites réserves par rapport à ce témoignage, mais moi je crois qu'on n'obtient pas le salut par cette façon de penser, ou par les œuvres, voilà, ou par ce qu'on a été élevé, des notables, un ministre, est-ce qu'il a besoin du Seigneur, ou est-ce que son chauffeur a autant besoin de lui que... Est-ce que le ministre en a moins besoin que son chauffeur? Vous comprenez ce que je veux dire? On en a tous besoin. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Ce soir, si vous voulez être pardonné, vous devez dire « Je veux le sang de Jésus-Christ ». Voilà, c'est la seule chose que vous devez faire. Vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez donner tout votre argent, ça ne sert à rien. Vous pouvez faire les œuvres que vous voulez, ça ne sert à rien. Vous devez dire « Jésus-Christ, merci pour ton sang précieux. Merci d'avoir donné ta vie sur le bois de la croix. » C'est une grande bénédiction. Le pardon, c'est un fait, c'est quelque chose d'accompli. C'est pour ça que je voulais lire tout le chapitre, je ne l'ai pas fait, mais quand vous lisez tout le chapitre, vous comprenez une chose, c'est quelque chose qui est réglé. C'est réglé. Les gens qui meurent et qui passent devant Dieu doivent s'entendre dire, mais oui, j'aurais dû entendre. J'aurais pas dû me borner à dire Dieu n'existe pas, j'aurais dû m'appliquer à... Et Dieu éclaire tous les gens qui veulent. Dernièrement, je voyais une personne qui me disait, mais moi, je n'ai pas cru jusqu'à présent. Mais maintenant, je crois que Dieu me cherche. C'est beau quand quelqu'un dit ça. Je crois que Dieu me cherche. Bon, j'ai discuté avec un musulman, il ne croit pas au pardon des péchés. Tout ce que vous voyez au niveau de l'islam, tout ça qui est compliqué, très compliqué, mais en vérité, il ne croit pas au pardon du péché. Ça doit être terrible. Moi, ça doit être terrible de ne pas croire au pardon. Heureux les chrétiens qui peuvent croire au pardon. Il y a des chrétiens de nom. Il y a des chrétiens de nom qui ne se sentent jamais pardonnés. Moi, il y a une dame qui me dit, je ne sais pas si Dieu m'a pardonné. Je ne sais pas si Dieu m'aime. Moi, je vous dis que Dieu vous aime et que son sang peut vous pardonner, qui que vous soyez. La religion, même la religion superficielle, s'épuise à essayer de faire croire aux gens qui vont être sauvés par les œuvres. On questionnait dernièrement un gars qui s'est converti à l'islam et on lui dit « Mais pourquoi vous vous êtes converti à l'islam ?» Un Français. Et il disait « Mais moi, je me suis converti à l'islam parce que ma religion, elle ne m'a rien apporté. » Ouais, ma religion, dans notre pays, ne nous a rien apporté. Et que c'est dommage. Vous ne trouvez pas que c'est dommage? Et ce frère, c'est un ami qui me l'a raconté, c'est lui qui a vécu ça, et il lui a dit, mais tu sais, mais il n'y a pas que telle religion, il y a d'autres églises, il y a la grâce de Dieu. Ah bon, moi je ne savais pas. Moi je croyais qu'il n'y avait que telle religion. Vous voyez, la religion, elle s'efforce, et les gens sont malheureux. Oui, il a plu à Dieu de sauver les hommes par la folie de la prédication. Jésus a dit, je suis venu pour chercher et pour sauver ce qui était perdu. Alors je vais vous poser une question pour terminer. Que feriez-vous demain ou ce soir, si un ami donnait sa vie pour sauver la vôtre ou pour sauver la vie de la personne que vous aimez le plus? Qu'est-ce que vous feriez? Vous apprenez ce soir en train chez vous, tiens, voilà, cher Pierre, je t'annonce que telle personne a donné sa vie pour sauver ton fils, ton enfant. Qu'est-ce que vous feriez si vous appreniez que quelqu'un a donné sa vie pour la personne que vous aimez le plus au monde, pour vous? Qu'est-ce que vous feriez? Allez, répondez-moi, vous avez le droit, on n'est pas nombreux, vous avez le droit de répondre. Vous le remercieriez ? Oui ? Vous seriez plein de reconnaissance ? Oui ? Moi, je pense qu'on serait... Franchement, vous ne seriez pas bouleversé si vous inclineriez pas en disant « Mais je ne sais pas comment faire pour te remercier, pour t'exprimer ma reconnaissance. » Est-ce que vous ne vous jetteriez pas à ses pieds presque pour le remercier ? Vous seriez rempli de reconnaissance. Eh bien, c'est ce que Dieu a fait en Jésus-Christ. C'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie. Il a tout donné pour vous sauver. Alors je crois que ça vaut la peine d'entendre la voix du Seigneur et de prendre ces versets au sérieux. Oui, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Et ce soir, n'importe qui peut dire oui, c'est un fait, c'est accompli. Vous le relirez, ce chapitre 9 des Hébreux, 9, 10 même. Vous lirez ces deux chapitres. Et si vous les lisez, vous enseignez, mais ouvre mes yeux avant que je ne comprenne ce chapitre, vous verrez que c'est accompli. C'est un fait. Jésus-Christ a donné sa vie et aujourd'hui il est dans le ciel, il est vivant, il intercède pour vous. Pourquoi ? Pour vous bénir, il n'est pas que mort, il est mort et il est ressuscité pour vous bénir. Et ce soir ça doit être une joie, c'est dommage qu'il n'y ait pas davantage de personnes qui ne découvrent pas cette vérité, de savoir qu'il y a un véritable pardon grâce au sang de Jésus-Christ. Vous n'avez pas besoin de faire ci, de faire là, de faire des chemins de croix ou je ne sais rien, de dire tout simplement « Seigneur, merci pour ton pardon ». Merci pour ce que tu as fait au calvaire. Alors je vous propose qu'on se recueille quelques instants, si vous le voulez bien. Ouais. Vous seriez rempli de reconnaissance pour un ami qui donnerait sa vie pour vous. Eh bien, c'est ce qui s'est passé. Jésus a donné sa vie pour vous. Alors on va terminer en priant, tout simplement. Simplement, on est sous le regard de Dieu. Dieu voit nos cœurs. Dieu nous connaît. Il a voulu nous rappeler que la bénédiction, la grâce... Le pardon, tout cela est possible à cause du sang de Jésus-Christ versé. Et que ce soir, il n'y a pas besoin d'œuvre, il n'y a pas besoin de ci, de là. Peut-être une vraie repentance, car c'est le mot d'ordre qui vient toujours, même c'est le premier mot que Jésus a prononcé, repentez-vous. Pour entrer dans le royaume de Dieu, il faut dire, je me repens de mes péchés. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Oui, vous pouvez lui dire merci. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous dites merci. Des fois, on dit merci pour ça, merci pour cette boisson. Mais je pense que ce n'est pas le même merci quand on dit merci pour le sang de Jésus. Notre Père, notre Dieu, oui, nous te remercions de nous rappeler que le pardon se trouve auprès de Dieu, auprès de toi. Que tu ne te lasses pas de pardonner. Que tu as donné ta vie. Que tu es venu sur la terre. Que tu as accepté toute cette misère, toute cette ignominie, tout ce calvaire, tu l'as accepté pour que nous puissions vraiment être pardonnés. Seigneur, tu nous vois, nous sommes là dans ta maison, tu sais où nous en sommes et vraiment oui, nous nous réjouissons de ce que le pardon soit un fait accompli. Que véritablement, cela soit une réalité, qu'il y a un sacrifice sanglant qui a de la valeur. Merci Seigneur Jésus pour ton sang précieux. Tu vois ceux qui ont levé la main tout à l'heure, lorsque j'ai posé la question sur qui a besoin de ta bénédiction. Tu les as vus, Seigneur. Eh bien, honore cet acte de foi, Seigneur, de vouloir obtenir cette bénédiction, cette paix que toi seul es capable de donner. Merci, Seigneur Jésus. Oui, merci pour ton sang versé. Merci de nous rappeler que c'est le seul moyen pour qu'un homme puisse entrer dans ton ciel. Que ton nom soit béni, Seigneur Jésus. Amen.